Monseigneur de Valois mit à l'ouvrage les 30 mineurs prêtés à lui par l'évêque de Metz. Ces mineurs devaient percer les galeries souterraines jusque sous les murs, puis y placer les barils de poudre auxquels on mettrait le feu. L'ingegnatore Hugues, qui appartenait au duc de Lorraine, promettait miracle de cette opération. Le rempart s'ouvrirait comme une fleur au printemps. Mais les assiégés, alertés par les coups sourds, disposèrent des récipients pleins d'eau sur les chemins de ronde. Et là où ils virent à la surface de l'eau se former des rides, ils surent que les Français en dessous creusaient une sape. Ils en firent autant de leur côté, travaillant la nuit, alors que les mineurs de Lorraine travaillaient de jour. Un matin, les deux galeries s'étaient rejointes. Il se passa sous terre, à la lueur des lumignons, une atroce boucherie dont les survivants ressortirent couverts de sueur, de poussière sombre et de sang, le regard affolé comme s'il remontait des enfers. Alors, les plateformes de tir étant prêtes, Monseigneur de Valois décida d'utiliser ses bouches à feu. C'étaient de gros tuyaux de bronze épais, cerclés de fer, et reposant sur des affûts de bois sans roues. Il fallait 10 chevaux pour traîner chacun de ces monstres, et 20 hommes pour les pointer, les caler, les charger. On construisait autour une sorte de caisse, faite d'épais madriers, et destinée à protéger les servants dans le cas où l'engin éclaterait. Ces pièces venaient de Pise. Les servants italiens les appelaient « bombarda » à cause du bruit qu'elles faisaient. Tous les grands seigneurs, tous les chefs de bannière s'étaient réunis pour voir fonctionner les bombardes. Le connétable gaucher haussait les épaules et déclarait l'air bougon qu'il ne croyait pas aux vertus destructrices de ces machines. Pourquoi toujours faire confiance à des noveltés, alors qu'on pouvait se servir de bons magonaux, trébuchets et perrières qui depuis des siècles avaient produit leurs preuves? Pour réduire les villes qu'il avait prises, lui, Châtillon, avait-il eu besoin des fondeurs de Lombardie? Les guerres se gagnaient par la vaillance des âmes et par la force des bras, et non point par recours à des poudres d'alchimistes qui sentaient un peu trop le soufre de Satan. Les servants avaient allumé auprès de chaque engin un brasero où rougissait une broche de fer. Puis, ayant introduit la poudre à l'aide de grandes cuillères de fer battues, ils chargèrent chaque bombarde, d'abord d'une bourre d'étoupe, ensuite d'un gros boulet de pierre de près de 100 livres, tout cela entonné par la gueule. Un peu de poudre fut déposée dans une gorge ménagée sur le dessus des culasses et qui communiquait par un mince orifice avec la charge intérieure. Tous les assistants furent invités à se retirer de 50 pas. Les servants des pièces se couchèrent, les mains sur les oreilles, un seul servant resta debout auprès de chaque bombarde pour mettre le feu à la poudre à l'aide de longues broches de fer rougies au feu. Et aussitôt que cela fut fait, il se jeta au sol et s'aplatit contre la caisse de l'affût. Des flammes rouges jaillirent et la terre trembla. Le bruit roula dans la vallée de la Garonne et s'entendit de Marmande à Langon. L'air était devenu noir autour des pièces, dont l'arrière s'était enfoncé dans le sol meuble par l'effet du recul. Le connétable toussait, crachait et jurait. Quand la poussière fut un peu dissipée, on vit qu'un des boulets était tombé chez les Français. Une toiture dans la ville semblait éventrée. « Beaucoup de fracas pour peu de dégâts, » dit le connétable. « Avec de vieilles balistes à poids et à fronde, tous les boulets seraient arrivés au but sans qu'on soit s'étouffé pour autant. » Or, à l'intérieur de l'aréole, personne n'avait compris tout d'abord pourquoi, du toit de Maître Delpuche, notaire, une grande cascade de tuiles était soudain tombée dans la rue. On ne comprenait pas non plus d'où venait ce coup de tonnerre, parti dans un ciel sans nuages et que les oreilles perçurent un instant après. Puis, Maître Delpuche surgit de chez lui en hurlant parce qu'un gros boulet de pierre venait de choir dans sa cuisine. Alors, la population courut au rempart pour constater qu'il n'y avait dans le camp français aucune de ces hautes machines qui formaient l'équipement habituel des sièges. À la deuxième salve, on fut forcé d'admettre que bruit et projectiles sortaient de ces longs tubes couchés dans la colline et que surmontait un panache de fumée. Chacun fut saisi d'effroi et les femmes refluèrent vers les églises pour y prier contre cette invention du démon. Le premier coup de canon des guerres d'Occident venait d'être tiré.